Les conférences du Collège de France.
Bonjour et bienvenue, bienvenue à nouveau au Collège de France. Peut-être certains d'entre vous ont assisté au colloque qui a eu lieu il y a deux jours exactement dans cet amphithéâtre et qui portait sur... le traitement des morts dans la préhistoire, et donc tout ça nous a amené évidemment à parler de comportements parfois violents dans les temps préhistoriques et surtout pour le néolithique, hein. Vous avez peut-être découvert aussi, si vous le saviez déjà, vous avez pu vous voir en détail comment se passent les guerres néolithiques. Et donc, la conférence d'Hugo Meyer aujourd'hui fait suite, en fait, à la fois au cours de l'année et puis à ce colloque qui a eu lieu il y a deux jours et qui a été, je crois, un grand succès. Quand on parle d'évolution humaine, on essaie d'essentialiser, si je peux dire, les humains par leur adaptation fondamentale. Et en gros, ce que je dis et ce que d'autres disent, hein, c'est que les humains et les hominines, de façon très ancienne, se caractérisent par deux choses. D'une part, leur capacité... Alors là, on parle plutôt des périodes récentes, disons des derniers 2 millions d'années, à modifier leur environnement. Et donc là, enfin, surtout récemment, j'allais dire, on a fait fort dans la modification de l'environnement. Et puis, il y a un autre trait qui est beaucoup plus ancien et peut-être beaucoup plus important, qui est le caractère fondamentalement coopératif des humains, quelque chose qui est inégalé dans les sociétés animales qu'on connaît, où il y a un certain niveau de coopération, par exemple pour la chasse. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut trouver chez les humains qui sont capables de créer des réseaux de solidarité qui s'étendent sur des territoires très importants avec un nombre d'individus très grand qui sont impliqués. Et alors évidemment, le paradoxe, c'est que ces humains qui sont extrêmement coopératifs, qui peuvent faire preuve d'altruisme, d'entraide... sont aussi remarquables pour autre chose, c'est qu'ils peuvent aussi créer des coalitions pour aller exterminer les voisins. Et ça, c'est assez unique aussi dans le monde vivant. Et donc, c'est de ce paradoxe, en fait, que Hugo Meyer va nous entretenir aujourd'hui, en remontant très loin, vous allez voir. Enfin, j'espère, en tout cas, qu'il va nous parler de la guerre chez les chimpanzés, par exemple. Et donc, voilà, j'étais très content de pouvoir inviter ce collègue, qui est donc un chercheur CNRS qui travaille au Centre de Recherche Internationale de Sciences Po. Alors, vous me direz, c'est quoi ma connexion vers Sciences Po? Voilà, c'est le hasard des lectures scientifiques, en particulier un article que M. Meyer a écrit dans Current Anthropology il y a un petit moment, qui a attiré mon attention. Et donc, voilà, j'étais très curieux de connaître ses autres publications et de le rencontrer, et puis finalement de l'inviter pour vous. Et encore une fois, c'est dans un esprit d'interdisciplinarité qu'on l'accueille aujourd'hui au Collège de France, dans le programme de la chaire de paléoanthropologie. Et vous voyez qu'on peut, si je peux dire, attaquer, sans vouloir faire un mauvais jeu de mots, attaquer l'évolution humaine par des angles très très différents, et j'espère que vous allez être intéressé, même passionné par ce qu'il va vous présenter aujourd'hui. Je lui donne la parole.
Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous, et tout d'abord un très grand merci au professeur Hublin pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de pouvoir vous présenter mes recherches. Et je vais notamment vous présenter les résultats d'un projet de livre auquel j'ai travaillé pendant maintenant plusieurs années sur les origines de la guerre et de la paix dans l'espèce humaine. Alors, ce projet de livre part vraiment d'une énigme, et c'est un peu un questionnement d'enfant que j'espère pourra vous interpeller et nous interpeller toutes et tous. Quelle est cette énigme ? Eh bien, l'énigme est que nous sommes une espèce très étrange. Et nous sommes une espèce étrange parce que nous sommes caractérisés par un paradoxe. Donc, d'une part, les humains font la guerre. Donc, nous nous constituons en groupe, que ce soit des sociétés de chasseurs-cueilleurs jusqu'aux États-nations, et nous combattons nos ennemis, et ce, souvent, de manière létale. Alors ça, c'est un comportement qui est assez rare dans le règne animal. Donc, bien évidemment, la violence létale est très répandue dans le règne animal, mais d'habitude, elle se produit entre deux individus. C'est ce qu'on appelle de la violence dyadique, que ce soit entre des adultes ou dans la forme d'infanticides qui sont très répandus chez les mammifères. En revanche, les conflits intergroupes sont beaucoup plus rares. Et quand je parle de conflits intergroupes que je vais ici utiliser de manière synonyme avec guerre, je parle d'une coalition d'individus qui utilisent de la violence létale contre des individus de la même espèce, donc des congénères, qui font partie d'un autre groupe. Et ce comportement est limité seulement à quelques espèces. Et j'ai essayé de répertorier toutes les espèces où cela se retrouve. Et alors, on retrouve ce comportement chez certains insectes sociaux, certaines fourmis, certaines termites, chez des carnivores sociaux, et notamment les lions, les loups gris, les hyènes tachetées, les chiens sauvages africains, les guépards, les mangoustriers et les suricates. Et enfin, chez quelques primates, et notamment les chimpanzés, les gorilles, les macaques à crête, les singes capucins et bien évidemment, nous, les êtres humains. D'autre part, les humains ont développé tout un très large éventail de coopérations pacifiques intergroupes que l'on retrouve également dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Pensez par exemple à tous les systèmes d'alliances par mariage que l'on voit entre groupes, toutes les pratiques de résolution des conflits via la négociation entre groupes, les trêves pour interrompre les hostilités, établir des relations pacifiques entre les groupes, ou les réseaux d'échange de biens, entre guillemets, des systèmes, des réseaux commerciaux. Alors, la coopération pacifique intergroupe se déploie lorsque des membres d'un groupe acceptent des coûts pour procurer des avantages à un autre groupe. Et ça, c'est rarissime dans le monde animal. Il y a quelques exceptions, et on va en reparler. C'est essentiellement chez les bonobos, chez les dauphins, et chez quelques espèces de fourmis. Mais bien évidemment, la coopération pacifique intergroupe chez les humains est unique en vertu de son ampleur, de sa complexité et du fait que ce sont des coopérations entre des larges groupes d'individus qui ne sont pas génétiquement apparentés. Et donc voici toute l'énigme. L'énigme est que notre espèce est biface. Il n'y a aucune autre espèce, pour le dire clairement, qui fait simultanément preuve d'une aptitude à mener des attaques létales en coalition contre des congénères d'autres groupes, et une aptitude tout aussi marquée à la coopération pacifique entre groupes qui sont génétiquement non apparentés. Et donc tout le livre, et sur plusieurs années, j'ai essayé de répondre à cette question. Quelle est l'origine de cette dualité qui est propre réellement à notre espèce? Et pour le dire plus spécifiquement, le livre cherche à comprendre quand, pourquoi et comment ce double penchant paradoxal pour la guerre et pour la paix s'est développé au cours de la longue période de l'évolution humaine. Et donc, pour répondre à cette question, ce que j'ai fait a été essayer de faire de mon mieux pour intégrer des données venant de 12 disciplines et pour essayer de minimiser le nombre de bêtises que je risquais de dire et d'étoffer un petit peu la robustesse académique du propos, j'ai obtenu des retours critiques de 232 universitaires. Et c'est par ailleurs comme ça que j'ai eu le plaisir de rencontrer Jean-Jacques. Donc, si on regarde les approches existantes à cette question de l'origine de la dualité guerre et paix dans l'espèce humaine, on voit que les réponses existantes peinent à répondre à cette question. Pourquoi ? Parce qu'elles restent retranchées autour de deux positions radicalement opposées et apparemment irréconciliables. Donc d'une part, il y a une position hobbesienne, donc d'après Thomas Hobbes. Selon cette hypothèse, disons, la guerre a des racines profondes dans la lignée humaine et la guerre serait une adaptation issue de la sélection naturelle que nous aurions hérité de notre ancêtre commun avec les chimpanzés, dont nous avons divergé il y a environ 7 millions d'années, ce qui aurait jeté les bases pour l'émergence de la guerre chez les humains. À l'autre bout du spectre, donc il y a la position rousseauiste, bien évidemment d'après Jean-Jacques Rousseau, inspirée, je dirais, de Jean-Jacques Rousseau, selon laquelle l'espèce humaine partagerait au contraire avec d'autres mammifères une adaptation évolutive pour les interactions pacifiques et pour la limitation des conflits. Donc ici, au contraire de la position hobbesienne, la coopération pacifique intergroupe est considérée comme étant ancestrale, C'est-à-dire qu'elle a des racines profondes sur plusieurs millions d'années. Et la guerre, au contraire, elle serait un développement culturel relativement récent qui serait lié à l'émergence des sociétés sédentaires, hiérarchiques, donc avec des hiérarchies socio-économiques, qui sont apparues dans le sillage de la révolution agricole il y a environ 12-10 000 ans au Proche-Orient et plus récemment dans d'autres continents. Mais cette dichotomie est problématique pour plusieurs raisons. Donc, tout d'abord, nous le savons, les interactions entre groupes humains englobent un continuum qui va de la coopération pacifique à la compétition jusqu'à l'agression létale. Il y a de très grandes variations entre culture et société. Deuxièmement, un accent exclusif qui serait mis sur ces racines profondes de la guerre ne permet en rien de comprendre l'émergence et la diffusion de ces pratiques de coopération pacifique entre groupes que l'on retrouve dans toutes les sociétés. Et de même, un accent exclusif mis sur notre nature supposée pacifique ignore, et ça on reviendra plus en détail sur ce point, toutes les preuves archéologiques et ethnographiques qui indiquent que des conflits intergroupes étaient antérieurs aux sociétés sédentaires agricoles. Et il néglige également, et on reviendra également sur ce point, l'héritage évolutif partagé de l'agression chez les humains et chez les autres primates. Donc, pour le dire en synthèse, chacune de ces positions, hobbesienne et rousseauiste, n'est que très partiellement correcte. Pour le dire autrement, elle est partiellement erronée. Et donc, ces deux positions sont insuffisantes. Et l'argument central du livre est donc de dire la guerre, alors tout d'abord, n'a pas émergé de manière brusque, mais surtout, la guerre et la paix ont toutes les deux des racines profondes dans la lignée humaine. Et le point important, c'est qu'elles ont coévolué de manière graduelle et incrémentale sur plusieurs millions d'années. Quand on parle de coévolution, on parle de processus de changement évolutif réciproque entre des traits qui sont en interaction. Et donc le livre cherche vraiment à retracer ce processus de coévolution graduelle et incrémentale de la guerre et de la paix sur plusieurs millions d'années. Alors, une petite remarque sur la focale temporelle. Donc, c'est sur une partie de la préhistoire. Le livre commence il y a 23 millions d'années, donc c'est le début de l'époque du Miocène. Pourquoi ? Parce que c'est l'émergence des grands singes. Et il va jusqu'à la révolution agricole. Donc, je vous l'ai dit, il y a 12-10 000 ans au Proche-Orient, plus récemment dans d'autres continents. Pourquoi ? Parce que c'est l'émergence des sociétés sédentaires et hiérarchiques. Et je tiens à souligner que le livre ne couvre pas toute la partie suivante, postérieure à la révolution agricole, parce que ça, c'est l'avènement des sociétés étatiques, l'écriture, donc c'est un autre univers que je souhaite peut-être analyser dans un autre livre, mais bon, ça, on verra. Alors, comment retracer les origines de la guerre et de la paix dans un temps aussi profond ? Eh bien, la méthode comparative issue de la biologie évolutive constitue réellement l'architecture générale de la comparaison entre espèces qui est proposée dans ce livre. Et pour comprendre un petit peu comment fonctionne cette méthode comparative, il est utile de se rappeler quelques points qu'on a parfois tendance à oublier. C'est-à-dire, et ça je dis certainement une évidence pour bon nombre d'entre vous, mais les humains font partie du règne des animaux. Nous faisons également partie de la classe des mammifères, donc nous sommes des mammifères. En particulier, nous appartenons à l'ordre des primates, avec les lémuriens, les singes et les autres grands singes. Nous faisons partie de la famille des grands singes, dite des hominidés, qui inclut les chimpanzés, les bonobos, les gorilles, les orang-outans et nous. Et le genre Homo, ce qui est donc la lignée humaine, a émergé il y a 2,8 millions d'années, et elle inclut Homo sapiens et environ l'autre quinzaine d'espèces humaines qui ont également existé et qui sont extinctes. Et notre espèce Homo sapiens, la seule espèce Homo qui reste aujourd'hui, a émergé il y a environ 315 000 ans. Donc, si on se concentre sur les hominidés, sur les grands singes, on voit, vous le voyez en bas à droite, que les bonobos et les chimpanzés sont entre guillemets nos cousins, entre guillemets les plus proches. Pourquoi ? Eh bien parce que nous partageons un ancêtre commun, qui s'appelle le dernier ancêtre commun des chimpanzés, bonobos et humains, le DAC, pour dire brièvement. En anglais, c'est LCA, parce que c'est Last Common Ancestor. Après quoi, donc, il y a 7 millions d'années, il y a eu une divergence, d'une part, les hominines, ce qui aboutira dans le temps ensuite au genre Homo, et d'autre part, le genre Pan. Le genre Pan inclut les bonobos et les chimpanzés, qui ensuite ont divergé il y a 1,5-2 millions d'années et sont devenus deux espèces distinctes. Et vous voyez également que si on remonte dans le temps, avant nous avions donc un ancêtre commun avec les gorilles et avant encore avec les orang-outans. Donc, comment fonctionne cette méthode comparative? Je m'y attarde 2 minutes parce que c'est vraiment important pour comprendre l'architecture générale de l'argument. Alors, prenez un trait comme le menton osseux, que nous avons toutes et tous. Le menton osseux est un trait qui est présent chez les humains, mais qui n'est pas présent chez les chimpanzés et les bonobos. Cela nous indique que c'est un trait qui a émergé dans notre lignée hominine après la divergence de dernier ancêtre commun avec les chimpanzés et les bonobos. C'est donc une innovation évolutive, c'est ce qu'on appelle un trait dérivé unique. Au contraire, si vous prenez un trait comme les pouces opposables, c'est un trait qu'on retrouve chez les humains, les bonobos et les chimpanzés. Cela indique que très probablement ce trait a été hérité de notre dernier ancêtre commun. Et c'est donc ce qu'on appelle un trait ancestral partagé. Alors, il est également vrai que, hypothétiquement, ces traits, donc le pouce opposable, ce trait aurait pu émerger de manière parallèle et indépendante chez les chimpanzés, les bonobos et les humains, mais cela est considéré peu probable en vertu de ce qu'on appelle le principe de parcimonie, qui privilégie les scénarios évolutifs les plus simples, c'est-à-dire les scénarios qui minimisent le nombre d'apparitions indépendantes d'un même trait. Et donc c'est possible, mais c'est improbable, et ce qui est plus probable est que ce trait partagé par les 3 espèces ait été hérité de leur ancêtre commun. Et notez que bien évidemment ce trait aurait pu être hérité d'un ancêtre bien plus lointain, ce qui est par exemple le cas pour les pouces opposables que l'on retrouve chez tous les grands singes, et donc c'est un trait partagé, hérité de l'ancêtre commun de tous les grands singes. Là où ça devient plus subtil et complexe, c'est que lorsqu'un trait n'est pas présent chez les bonobos et on le retrouve chez les chimpanzés et les humains, alors c'est plus compliqué de savoir si là c'est un trait qui a émergé de manière indépendante et parallèle ou s'il a été hérité. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on prend ce groupe d'analyse de ces 3 espèces, on l'élargit, on analyse ce qu'on appelle le groupe phylogénétiquement externe, qui inclut par exemple les gorilles. Et à titre d'exemple, si un trait se retrouve chez les gorilles, les chimpanzés et les humains, mais n'est pas présent chez les bonobos, cela pourrait indiquer que c'est un trait ancestral hérité de l'ancêtre commun de tous les grands singes africains, donc gorilles, bonobos, chimpanzés et humains, et qui aurait été perdu chez les bonobos. Si ce trait, au contraire, n'est pas présent chez les gorilles ni chez les bonobos, mais est présent chez les chimpanzés et les humains, cela pourrait indiquer que c'est une évolution indépendante et parallèle, donc ce qu'on appelle un trait analogue, et donc une convergence évolutive. Alors, cette approche comparative peut être appliquée à des traits morphologiques, donc la structure crânienne, des caractères sociaux, comme les systèmes d'accouplement, ou des traits comportementaux, comme les relations intergroupes, violentes ou pacifiques. Et dans ce dernier cas de figure, elle peut contribuer à éclairer ou à comprendre quand la guerre et la paix ont émergé dans notre lignée. Alors, voyons en extrême synthèse ce que l'on trouve lorsqu'on va faire cette comparaison interespèces, chimpanzés, bonobos et humains. Donc commençons par les chimpanzés. Et là, ce sont essentiellement des données issues de la primatologie. Je vais être très synthétique, bien évidemment. Mais ce qu'on voit lorsqu'on analyse les relations intergroupes chez les chimpanzés est que, tout d'abord, on s'aperçoit rapidement qu'il n'y a aucune coopération pacifique intergroupe. Donc les primatologues parlent de relations intergroupes qui sont xénophobes. Les chimpanzés sont une espèce territoriale. On voit, vous le voyez ici dans la photo ici en bas, donc des coalitions de chimpanzés qui font des patrouilles de leurs frontières territoriales et ils le font à la queue leu-leu, en silence. C'est assez impressionnant. Et surtout, il y a des agressions létales en coalition contre des membres d'autres groupes. Et dans ces cas, les attaquants surpassent numériquement leurs victimes avec un ratio médian de 8 attaquants contre une victime. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Tout d'abord parce que cela permet de minimiser les coûts, c'est-à-dire de réduire les risques de blessures. Mais surtout, ou également, il y a des bénéfices potentiellement élevés. Et on a pu montrer qu'en éliminant des individus d'un groupe rival, les agresseurs réduisent la taille de ce groupe rival. Ils augmentent ainsi leurs chances de gagner dans des confrontations futures et ils élargissent leur territoire et donc leur accès à des ressources comme de la nourriture et des partenaires reproductifs. Et juste pour vous donner un exemple, donc vous voyez ici le graphique en gris, ça c'est la communauté d'Engogo qui est dans le parc national de Kibale en Ouganda. Et vous voyez qu'en haut à droite, tous les points noirs sont des attaques létales en coalition. qui ont permis à la communauté d'Ngogo d'élargir leur territoire de presque 20%. Et ça, c'est la partie qui est rayée en gris. Donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple de ces dynamiques intergroupes. Si on va voir chez les bonobos, c'est complètement différent. Alors, les bonobos sont une espèce à faible territorialité. On n'y retrouve pas de patrouille territoriale, par exemple. Il y a également une absence d'agression létale intergroupe, sauf peut-être un cas suspecté. Mais essentiellement, il n'y a pas d'agression létale intergroupe. Alors attention, les bonobos sont agressifs. Il y a de l'agression dans le groupe et entre les groupes, mais il s'agit toujours d'une agression non létale. Et c'est un point vraiment important. On voit également des formes de coopération pacifique intergroupe que l'on ne voit pas chez les chimpanzés. Donc ce sont des relations intergroupes xénophiles. Par exemple, des individus de groupes différents font du grooming, donc de l'épouillage. Donc ce sont des bonobos de groupes différents qui s'épouillent. Il y a également des exemples de partage de nourriture entre individus de groupes différents, ce qui est un clair cas de coopération pacifique intergroupe. Il y a également un cas intéressant, ou plusieurs cas en vérité, où des femelles, une femelle d'un groupe, se coalise avec une femelle d'un autre groupe pour contrer un mâle qui serait agressif. Donc il y a tout un éventail d'exemples de coopération pacifique intergroupe, mais un point fondamental est que cette coopération est dyadique, c'est-à-dire qu'elle est entre des paires d'individus, et ce n'est pas une coopération entre groupes en tant que tel, comme on le voit chez les êtres humains. Alors, lorsqu'on compare les bonobos, les chimpanzés et les humains, on ne peut pas faire cette comparaison en regardant des sociétés modernes comme la nôtre, ou des sociétés étatiques, des sociétés agricoles. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pendant une très grande majorité de notre lignée humaine, du genre Homo, nous étions des chasseurs-cueilleurs. Et c'est pourquoi la comparaison doit être faite entre des bonobos, des chimpanzés et des chasseurs-cueilleurs. Et il y a deux types de sources que l'on peut mobiliser pour analyser les chasseurs-cueilleurs, c'est l'archéologie et l'ethnographie. Donc voyons d'abord les résultats, ce que l'archéologie nous dit sur les relations pacifiques intergroupes à la préhistoire. Alors bien évidemment, il y a très peu de sources, puisque c'est bien avant l'écriture qui date d'il y a 5200 ans, mais il y a une source qui me semble extrêmement importante, précieuse et intéressante, et c'est l'étude des transports de matières premières type silex, obsidienne, ambre, sur des longues distances par rapport à leur source d'origine. Alors, ça marche comment ? Donc, les archéologues font une comparaison ethnographique, ils regardent les chasseurs-cueilleurs documentés historiquement et voient que la zone d'alimentation quotidienne de ces chasseurs-cueilleurs, là où ils allaient chasser ou faire de la cueillette, était d'environ de 15-25 km. Donc, si les archéologues retrouvent des matières premières de manière régulière sur des distances bien supérieures à ces 15-25 km, cela suggère des échanges entre groupes. Alors, il y a toute une série de travaux, je vous en ai mis quelques-uns ici. Mais si vous regardez donc ici en haut, vous voyez que jusqu'à il y a 1,6 million d'années, ça c'est sur des sites européens, la distance maximale de transfert des matières premières était inférieure à 15 km. Et donc vraisemblablement en dessous de, n'incluait pas d'échanges entre groupes. À partir d'1,2 million d'années, on voit que les distances maximales arrivent jusqu'à 120 km. Même si elles restent essentiellement concentrées en dessous de 40 km. Et plus on avance dans le temps, plus ces distances augmentent. Donc à partir d'il y a 300 000 ans, elles arrivent jusqu'à ou dépassent les 300 km. Et on sait également qu'à partir de 50 000 ans, les réseaux d'échange dépassent les distances de 1000 km. Et donc, pour vraiment en synthèse, là je vous synthétise toute une série de données que j'ai pu recueillir sur plusieurs années, mais les données archéologiques issues d'Afrique, d'Europe et du Proche-Orient montre l'émergence et ensuite l'expansion géographique et progressive de réseaux d'échanges intergroupes au paléolithique. Et cela pourrait représenter, vraiment, et ça c'est fascinant, la toute première trace d'interaction pacifique dans la préhistoire humaine. Alors, si on va voir du côté de l'archéologie de la guerre, donc du conflit intergroupe, ce que j'ai fait là était de recueillir et intégrer des données archéologiques sur les conflits interpersonnels, c'est-à-dire sur des homicides essentiellement, et sur les conflits intergroupes à l'échelle mondiale. Sachant que, on y reviendra, il est parfois très difficile de différencier entre ce qui est un homicide et ce qui relève d'un conflit intergroupe. L'objectif était d'évaluer les deux hypothèses concurrentes dont nous parlions avant. Donc, d'abord, l'hypothèse rousseauiste qui nous dit l'émergence des conflits intergroupes est liée à la sédentarisation, à la hausse démographique et à l'émergence de hiérarchies socio-économiques avec l'agriculture. Et au contraire, l'hypothèse hobbesienne nous dit non, absolument pas. Les conflits intergroupes préexistent à ces transformations sociales et on les retrouve chez les chasseurs-cueilleurs nomades. Donc ce que j'ai fait était analyser les relations, les traces archéologiques dans toutes les régions que vous voyez encerclées ici en rouge. Je vous avoue que c'était un travail assez colossal. Et pour chaque région, j'ai analysé quatre facteurs. Donc d'abord, le degré de mobilité et de subsistance, c'est-à-dire est-ce que ces sociétés étaient nomades ou sédentaires, se focalisaient-elles sur la chasse et la cueillette ou l'agriculture, donc en me basant sur l'archéologie et la paléobotanique. Deuxième facteur, c'est la densité de la population. Donc là, ce sont vraiment des données issues de la paléodémographie. Troisième facteur, la stratification sociale, donc le degré de hiérarchie socio-économique que, par exemple, on retrouve dans des sépultures différenciées entre individus. Et quatrièmement, les preuves de conflit, bien évidemment. Donc ça, c'est la bioarchéologie, c'est l'étude des restes humains dans des contextes archéologiques en utilisant quatre types de sources, les restes squelettiques, les fortifications, les armes et l'iconographie comme l'art rupestre. Et je pourrais revenir sur les difficultés et limitations de chacune de ces sources plus tard, si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? Là, encore une fois, je vais être très synthétique, mais essentiellement, on trouve quelques éléments de preuve archéologique qui pourraient potentiellement, partiellement, confirmer l'hypothèse hobbesienne. Donc, on trouve des cas d'agression violente, une multitude de cas d'agression violente, et ici, je ne distingue de pas si c'est dans le groupe ou entre groupes, et on les retrouve chez bon nombre d'espèces du genre Homo et sur tous les continents. Donc juste pour vous donner quelques exemples, déjà avec Homo erectus, il y a 1,77 million d'années à Dmanisi en Géorgie, il y a des traces d'agression violente. Chez les Néandertaliens, on le retrouve déjà à Cima de los Huesos, il y a 430 000 ans, donc en Espagne près de Burgos, où 8 sur 17 individus ont des traumatismes crâniens violents, vous les voyez ici. Et enfin, chez Homo sapiens, on les retrouve sur plusieurs régions et continents. Pour vous donner juste deux exemples très célèbres, il y a ce site de Jebel Sahaba au Soudan, qui date de 13-18 000 ans, où on retrouve 23 morts violentes. Sachant que par contre, il y a encore un débat en cours qui est-ce que ces 23 morts violentes sont une succession d'homicides étalés dans le temps, ou est-ce qu'il s'agit d'un cas de conflit intergroupe concentré dans le temps ? Donc ce débat est encore en cours. Là où il y a moins de débats, c'est à Nataruk au Kenya, donc un site d'il y a environ 10 000 ans, où on trouve 10 individus avec des traumatismes létaux, 2 qui ont vraisemblablement été ligotés, et cela a été interprété même très récemment par Isabelle Crèvecoeur et d'autres, comme un cas de raid létal intergroupe. Alors, je vous montre également ce cas, tout simplement parce que je trouve ça magnifique. C'est une peinture rupestre du Tassili Najjar en Algérie, qui était datée de 7-6 000 ans. Vraisemblablement un conflit entre groupes d'archers, vous le voyez. Alors, on ne peut pas entièrement exclure qu'il s'agisse d'une représentation symbolique ou rituelle, mais s'il confirmait qu'il s'agit bien d'un conflit intergroupe, donc il y a 7-6 000 ans, il précède de plusieurs millénaires l'agriculture qui, dans la région, émerge il y a environ 3 000 ans. Et enfin, on trouve également des preuves d'agression avant l'agriculture dans toute une série de continents, en Australie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique australe et au Proche-Orient. Donc, en synthèse, certains éléments de preuve semblent confirmer, du moins partiellement, l'hypothèse hobbesienne, mais plus on remonte dans le temps, plus les éléments de preuve deviennent fragmentaires et surtout ils deviennent plus difficiles à interpréter. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus difficile de différencier entre s'agit-il d'un homicide ou d'un conflit intergroupe. Et cela est absolument le cas, par exemple, à Cima de los Huesos, où c'est tout simplement pas possible de savoir de quel type de violence létale il s'agit. En même temps, il y a d'autres éléments de preuve qui semblent confirmer l'hypothèse rousseauiste, du moins partiellement. Parce qu'on retrouve dans plusieurs régions, on voit que la transition vers des sociétés agricoles, sédentaires et hiérarchiques, s'est accompagnée d'une intensification des conflits intergroupes. Ça se voit très clairement dans l'Europe au néolithique, au Proche-Orient, notamment en Anatolie, en Mésopotamie, au néolithique, mais également au Japon, en Amérique du Nord, en Mésoamérique, dans les Andes et dans le sud de l'Amérique du Sud. Mais ce qui est important à noter également, c'est qu'il n'y a pas de lien systématique, et ça c'est vraiment important, entre sédentarité et hiérarchie sociale d'une part, et conflit intergroupe de l'autre. c'est-à-dire qu'on retrouve toutes des sociétés de chasseurs-cueilleurs sédentaires et hiérarchiques, qui n'ont pas d'intensification des conflits intergroupes. Ça se voit au Levant, au Néolithique, en Europe, dans certaines régions au Mésolithique, en Australie, dans certaines régions en particulier, et au Chili. Donc les données semblent contredire une corrélation supposée universelle entre sédentarité et hiérarchie sociale d'une part, et conflits intergroupes de l'autre. Donc, en conclusion, sur qu'est-ce que nous disent les archives archéologiques, eh bien, elles montrent que elles apportent un soutien partiel aux hypothèses hobbesiennes et rousseauistes, mais aucune des deux positions n'est entièrement confirmée. Et les relations intergroupes à la préhistoire n'étaient ni constamment violentes, ni constamment pacifiques, et ce qui émerge, et ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est cette très grande plasticité, donc des variations majeures à la fois dans le temps et entre régions. Alors, les archéologues et les anthropologues complémentent ces données archéologiques fragmentaires avec des données ethnographiques, et en particulier ce qu'on appelle l'analogie ethnographique. C'est quoi ? C'est l'étude des chasseurs-cueilleurs qui ont été documentés historiquement, ethnographiquement, entre environ le 18e et le 20-21e siècle, pour chercher à reconstituer comment les modes de vie, essentiellement les modes de vie des sociétés préhistoriques. Et donc ces sociétés de chasseurs-cueilleurs offrent des informations absolument précieuses, parce que ce sont les seules observations directes des organisations sociales et des relations sociales humaines sans agriculture. Alors bien évidemment, il y a toute une série de précautions méthodologiques à prendre. Tout d'abord, il est important de focaliser le corpus ethnographique sur les chasseurs-cueilleurs nomades. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, pendant une grande partie de la lignée humaine, nous étions chasseurs-cueilleurs nomades. Mais alors, il y a un problème qui est bien connu, c'est-à-dire que ces sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades auraient pu être influencées par des acteurs ou des sociétés étatiques ou agricoles voisines. Et donc, pour éviter ce problème, on restreint ultérieurement le corpus à des sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades qui sont entourées d'autres sociétés de chasseurs-cueilleurs nomades et ou qui n'ont pas eu d'interaction avec des sociétés agricoles, pastorales ou étatiques. Et ça se retrouve dans peu de régions. Donc, vous les voyez toutes listées ici dans le tableau. Et le corpus ethnographique qui est mobilisé dans le livre se focalise exclusivement sur ces régions pour, voilà, c'est... en raison de ce critère de prudence méthodologique, si je puis dire. Et un autre aspect important, c'est que bien évidemment, une seule société de chasseurs-cueilleurs n'est pas représentative en soi, mais quand des traits similaires sont observés de façon récurrente et indépendante sur bon nombre de continents, cela indique, suggère des racines profondes de ce trait dans l'évolution humaine. Alors, qu'est-ce que l'on trouve lorsqu'on analyse les données ethnographiques venant de ces sept régions que je vous indiquais ? Eh bien, on voit toute une panoplie, un éventail de pratiques culturelles visant à maintenir des relations pacifiques et coopératives entre groupes. On voit l'emploi de messagers, des messagers qui permettent de transmettre des messages entre groupes, de négocier entre groupes. Il y a tous des systèmes de réseaux d'échange de biens, d'informations, de rites à grande distance, qui est également ce qu'on a vu dans les archives archéologiques, des mariages exogames, c'est-à-dire à l'extérieur du groupe, donc tout un des réseaux d'alliances par le biais de mariages intertribaux. Et alors ça, c'est absolument fascinant, on voit tout un système, tout un éventail de pratiques de résolution des conflits. Donc des rituels, des cérémonies de réconciliation qui visent à gérer et à résoudre des conflits entre groupes. L'établissement de trêves également, donc cela permet de suspendre les hostilités. Et enfin, et ça c'est intéressant, des alliances à la fois défensives et offensives. Sachant que, je ne sais pas si vous le savez, la seule autre espèce qui fait des alliances entre un groupe A et un groupe B contre un groupe C, ce sont les dauphins. Et à part les dauphins, il y a nous. Bien évidemment, donc on voit toute une série de pratiques de coopération pacifique entre groupes chez les chasseurs-cueilleurs nomades. La question des conflits entre groupes de chasseurs-cueilleurs nomades est extrêmement virulente, si je puis dire, dans la littérature. Il y a des divergences d'opinion assez tranchées et marquées, avec des divergences sur la fréquence et la mortalité des conflits intergroupes. Pour faire simple et pour synthétiser, on voit toute une série de travaux dans cette approche rousseauiste qui utilise des données qualitatives et quantitatives pour montrer que l'émergence des conflits intergroupes serait corrélée au degré de stratification sociale, c'est-à-dire le degré de hiérarchie socio-économique, et au degré de sédentarité. Et selon ces auteurs, les violences létales qui précèdent l'agriculture étaient essentiellement soit des homicides, soit des vengeances entre groupes qui ne qualifient pas de guerre, mais il n'y avait pas de guerre avant l'agriculture, essentiellement. Alors, tous ces travaux ont été critiqués de manière assez méthodique par toute une série de travaux, dont Luc Gloa, qui est dans un article récent. Alors, je vous passe les détails pour vous donner juste un exemple. Ces travaux, entre guillemets, rousseauistes, certains ont inclus des groupes de chasseurs-cueilleurs nomades qui ont été influencés par des sociétés voisines agricoles et donc ne respectent pas les critères méthodologiques que je vous indiquais plus haut. Donc, ces travaux ont été critiqués et les études qui rentrent dans une approche hobbesienne ont donc proposé une méthodologie plus rigoureuse qui est celle que je vous évoquais plus haut. Et donc, ces travaux ont montré que il y a tout un ensemble de similarités entre les raids létaux intergroupes des chimpanzés et des humains qui sont tout à fait frappantes. Donc on voit d'abord que les taux de mortalité relevant des agressions létales intergroupes chez les chimpanzés et les chasseurs-cueilleurs sont comparables et inférieurs à celles des agriculteurs. Une deuxième similarité frappante est que les tactiques sont les mêmes, c'est-à-dire qu'on voit dans les deux espèces des attaques asymétriques en coalition, des raids, où les attaquants maximisent leur avantage numérique pour minimiser les coûts. Et enfin, je trouve ça assez rigolo, c'est le recueil de renseignements, entre guillemets, c'est-à-dire que les deux espèces, les chimpanzés et les humains, exploitent les reliefs géographiques pour repérer à distance les rivaux et évaluer les risques d'attaque. Donc on voit également du recueil de renseignements. Et donc selon ces auteurs, ces similarités suggèrent des racines profondes de l'agression létale intergroupe. Quelles leçons peut-on tirer de cette comparaison entre espèces ? Donc, on l'a vu, chez les chimpanzés, il y a une hostilité systématique entre groupes, des agressions létales en coalition et aucune coopération pacifique entre groupes. Chez les bonobos, au contraire, il n'y a pas d'agression létale intergroupe. Il y a des formes de coopération pacifique intergroupe, mais elles sont limitées à des coopérations dyadiques, donc des coopérations entre individus de groupes différents. Et enfin, chez les humains, il y a des agressions létales intergroupe, comme chez les chimpanzés. Il y a la coopération pacifique intergroupe, mais elle est au niveau des groupes, elle n'est pas limitée à des dyades, des paires d'individus. Et donc, c'est différent que chez les bonobos. Là où ça devient intéressant, c'est que pour comprendre l'origine et les similarités, l'origine des similarités et des différences dans les comportements de ces trois espèces, il serait fondamental de pouvoir reconstituer les traits du dernier ancêtre commun des chimpanzés, des bonobos et des humains pour ensuite comprendre pourquoi et comment ces descendants ont suivi des trajectoires aussi divergentes. Il y a un petit souci, c'est que nous ne disposons pas des fossiles du dernier ancêtre commun. Et par ailleurs, même les fossiles des chimpanzés, nous n'en avons pas beaucoup, les plus anciens datent d'il y a environ 500 000 ans. Et donc, il y a tout un énorme débat en paléanthropologie sur chercher de comprendre quels auraient pu être les traits de ce dernier ancêtre commun. Et pour ce faire, les paléanthropologues analysent des traits morphologiques des grands singes du Miocène, des grands singes existants et des hominines, et des traits comme la locomotion, les mains, les pieds, le nombre de colonnes vertébrales, les épaules, les omoplates, etc. Y compris le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire les différences de taille entre mâles et femelles d'une espèce. Tout d'abord, il y a des différences d'analyse parce que sur certains traits, il y a différentes techniques d'analyse qui sont utilisées, mais surtout, il y a des divergences dans les interprétations de ces différents traits morphologiques. Et cela, en extrême synthèse, je suis très synthétique bien évidemment, mais cela aboutit à quatre hypothèses sur le dernier ancêtre commun. C'est-à-dire que selon certains paléanthropologues, il ressemblerait plutôt à des chimpanzés, selon d'autres, il ressemblerait plutôt aux bonobos, selon d'autres encore, des gorilles. Et enfin, d'autres disent non, c'était un mosaïque de traits de singes du Miocène et de singes existants, et qu'il ne peut pas être réduit à une espèce existante individuelle. Sachant que dans tout le débat, le modèle disons, des chimpanzés et le modèle des mosaïques sont les modèles dominants. Donc j'ai travaillé pendant des mois et des mois et des mois pour essayer de comprendre les différentes positions en paléanthropologie sur ce point. Et la conclusion, si l'on veut être intellectuellement honnête, est que nous ne savons pas. Donc nous ne connaissons pas encore les traits morphologiques et comportementaux du dernier ancêtre commun. Et donc toute hypothèse sur la coopération pacifique et les conflits intergroupes basés sur ce dernier ancêtre commun serait complètement spéculative. Alors je ne vous cache pas que quand je suis arrivé à ce moment des recherches pour mon livre, j'ai eu très peur parce que je me suis dit, dans un livre qui cherche à comprendre l'origine de la paix et de la guerre, la conclusion est « nous ne savons pas », donc je vais probablement pas vendre beaucoup de copies. Mais heureusement, voilà, on peut surmonter ces incertitudes, et notamment on peut élargir la focale d'analyse, c'est ce que je vous disais au début, en regardant avant et après le DAC, donc ce dernier ancêtre commun, et notamment en analysant les traits morphologiques des singes du Miocène, donc précédant au DAC, des singes existants et des hominines, pour essayer de comprendre quels sont les traits ancestraux au DAC et les traits dérivés, c'est-à-dire les innovations évolutives chez les hominines. Et ce que j'ai fait était d'analyser donc toute une série de traits morphologiques chez les singes du Miocène, les singes existants et les hominines. Je vous en présente deux parce que je pense qu'elles sont particulièrement importantes. Donc le premier trait, c'est le dimorphisme sexuel dans la dimension des canines. Alors le dimorphisme sexuel, c'est les différences physiques entre mâles et femelles d'une espèce. Et alors pour faire très simple, les canines sexuellement dimorphiques et aiguisées fonctionnent comme des armes dans la compétition et l'agression intra-sexe, et chez les primates donc entre mâles, ce qui permet de dissuader et de vaincre les rivaux lors d'interactions agressives. Donc ça, c'est un premier trait. Le deuxième trait est à mon sens même plus important, je dirais, plus indicateur, plus révélateur. Alors, c'est la fonction aiguisoire du complexe CP3. Qu'est-ce que ça veut dire? Le complexe CP3 est un complexe fonctionnel qui se caractérise par des canines hautes et prééminentes, vous le voyez ici dans le dessin, qui sont aiguisées par contact avec la prémolaire inférieure antérieure P3, d'où le complexe CP3. Et le complexe CP3 permet de maintenir des bords aiguisés et tranchants et coupants des canines, et il n'a qu'une seule fonction, c'est accroître l'efficacité des canines lors de menaces visuelles et d'agressions. Et donc, qu'est-ce que l'on voit? Donc là, encore une fois, c'est une grande synthèse, mais si on regarde ces traits chez les singes du Miocène et les grands singes, on voit que chez presque tous les singes du Miocène, à une, peut-être deux exceptions près, et chez tous les grands singes existants, il y a un complexe CP3 et il y a des canines fortement dimorphiques. Et chez les hominines, au contraire, on voit une réduction du dimorphisme des canines et la disparition du complexe CP3. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut dire tout d'abord que l'aptitude à l'agression létale est très probablement un trait ancestral hérité de nos ancêtres, les singes du Miocène. Mais, bien évidemment, ce trait morphologique ne nous permet pas de comprendre si cette agression létale était déployée dans le groupe et ou entre groupes. Cela nous montre également qu'il y a eu, dans la lignée des hominines, une baisse relative de l'agression létale par rapport à nos ancêtres, les singes du Miocène, et, on l'a vu par la comparaison interespèces, la coopération pacifique intergroupe est une innovation évolutive chez les hominines. C'est ce qu'on appelle donc un trait dérivé unique. Et je pense que ça, c'est un point d'étape utile lorsque nous avançons dans le développement de l'argument du livre. Allons voir maintenant un petit peu plus en détail ce qu'il s'est passé dans la lignée des hominines. Donc essayer de comprendre cette coévolution de la guerre et de la paix chez les hominines. Sachant que je vais parler comme s'il y avait eu des étapes, puisque c'est une évolution graduelle et incrémentale, dans la nature, il n'y a pas ce type d'étapes, mais c'est juste par souci de clarté analytique que je vais parler comme s'il y avait des étapes. Alors, si on regarde d'abord les racines profondes du conflit, de l'agression létale et du conflit intergroupe, donc nous l'avons vu, une première étape, entre guillemets, est le fait que l'aptitude à l'agression létale est héritée des ancêtres de nos ancêtres, les singes du Miocène. Mais nous ne savons pas si elle est intergroupe ou dans le groupe. Donc la deuxième étape consiste à comprendre quand les conflits intergroupes auraient émergé. Et ici, un des arguments du livre est de dire que le conflit intergroupe était vraisemblablement présent au moins depuis que les hominines ont développé la capacité de chasser en groupe. Alors, j'explique. La chasse de groupe, c'est appelé également la chasse coopérative. Et c'est essentiellement une forme de prédation dans laquelle plusieurs individus agissent conjointement pour poursuivre et mettre à mort une proie. c'est une forme d'agression en coalition contre une autre espèce. L'argument ici est de dire le même répertoire de compétences, donc de skills, le même répertoire de compétences est mobilisé dans l'agression en coalition contre d'autres espèces dans la chasse coopérative et contre des congénères dans le conflit intergroupe. Et c'est cette transférabilité de compétences entre chasse coopérative et conflit intergroupe qui permet d'estimer un seuil minimal d'ancienneté des conflits intergroupes. Alors je vais essayer d'expliquer en présentant trois faisceaux de preuves. Le premier faisceau de preuves vient de l'ethnographie, donc, qui a montré une corrélation claire entre chasse et conflit intergroupe. Donc un travail célèbre de Otterbein a montré que dans 31 sociétés de chasseurs-cueilleurs, il y avait une corrélation forte. Plus ces sociétés dépendent de la chasse, plus la fréquence des conflits intergroupes était élevée. Au contraire, plus ces sociétés dépendent de la cueillette, et moins cette fréquence des conflits intergroupes est élevée. En plus, il a montré que plus ces sociétés dépendent de la chasse au gros gibier par rapport au petit gibier, plus les fréquences des conflits sont élevées. Alors, bien évidemment, c'est fondamental, c'est une évidence même de le souligner, la corrélation n'est pas causalité. Et l'argument ici n'est pas de dire, je le souligne, n'est pas de dire que la chasse collective aurait causé l'émergence des conflits intergroupes ou vice-versa. Cet argument a été avancé dans la littérature, mais je pense qu'il n'y a pas d'éléments de preuve pour le soutenir, donc ce n'est pas mon argument. Mon argument est plutôt de dire qu'il y a une corrélation et elle est importante. Et elle est importante parce qu'elle suggère la co-occurrence de ces deux formes d'agression létale en coalition chez les chasseurs-cueilleurs. Le deuxième élément de preuve, faisceau de preuve, vient de l'éthologie comparée, donc l'analyse, l'étude comparative des comportements animaux. Et on voit toute une série d'espèces qui font à la fois la chasse coopérative et des conflits intergroupes. Je ne vais pas vous faire la liste, mais c'est toute une série d'insectes sociaux, de carnivores sociaux et de primates dont un petit peu nous avons parlé au début. Et ce que j'ai fait était d'analyser les pratiques de chasse coopérative et de conflits intergroupes dans toutes ces espèces. Et, alors, en extrême synthèse, ce que l'on trouve est que dans toutes ces espèces, il y a trois compétences clés qui sont mobilisées à la fois dans la chasse coopérative et dans les conflits intergroupes. Donc tout d'abord, on voit une dépendance de la coopération avec des membres du groupe pour atteindre un avantage numérique, que ensuite on déploie soit contre des proies, soit contre des congénères. On voit également tous des systèmes de communication avant et pendant l'agression en coalition, contre des proies et contre des congénères. Et enfin, il y a des différenciations de rôle dans cette agression en coalition. Donc pour faire un exemple, un individu se cache, l'autre individu poursuit la proie ou les rivaux, et il y a ensuite une embuscade. Donc, ces trois dimensions, ces trois compétences, forment un répertoire commun de compétences qui est coopté dans les deux types d'agressions en coalition. Et donc, l'argument est de dire, dans toutes ces espèces, un ensemble de préadaptations a fourni le répertoire de compétences conjoints qui est mobilisé à la fois pour la chasse coopérative et pour le conflit intergroupe. Et le troisième faisceau de preuve vient à nouveau de l'ethnographie, et donc c'est vraiment sur les êtres humains, sur les Homo sapiens. C'est une dimension ultérieure de cette transférabilité de compétences. Pensez aux tactiques, c'est-à-dire que exactement les mêmes tactiques, l'embuscade et l'encerclement, sont utilisées à la fois dans la chasse coopérative et dans les conflits intergroupes. Et de même, des armes, les mêmes armes sont utilisées, les lances, les arcs, les flèches, dans la chasse coopérative et dans les conflits intergroupes. Donc chez les humains, il y a un élément ultérieur de cette transférabilité qui est lié aux tactiques et aux armes. Alors, donc, ces trois faisceaux de preuves suggèrent que les conflits intergroupes seraient aussi anciens que la chasse coopérative. Je précise ici que ça, c'est la dernière partie du livre sur laquelle je suis encore en train de travailler et de finaliser. Donc, je pourrais revenir si vous avez des questions sur... je pourrais répondre si vous avez des questions sur les traces archéologiques de chasse et ou de chasse coopérative. Mais ce que je peux vous dire pour le moment est que, puisque les humains, les chimpanzés et les bonobos ont tous les trois une aptitude pour la chasse coopérative, vraisemblablement, le dernier ancêtre commun de ces trois espèces avait également une aptitude à la chasse coopérative, et il est donc plausible que ce dernier ancêtre commun pratiquait déjà les conflits intergroupes. Ce qui a par ailleurs été confirmé par plusieurs études phylogénétiques. Bon, je peux revenir sur ce point si vous le souhaitez. Donc, une étape ultérieure est, à partir d'il y a 400 000 ans, c'est donc avant Homo sapiens, c'est le développement d'armes, et notamment de lances, à partir de 400 000 ans. Et ça, c'est clairement une innovation culturelle qui a facilité non seulement la chasse coopérative du gros gibier, mais également les conflits intergroupes. Et les premières traces de lances que l'on a pu retrouver sont à Clacton, en Angleterre, il y a 427 000 ans, et les célèbres lances de Schöningen, en Allemagne, il y a 330 000 ans. Et enfin, une dernière étape, entre guillemets, est le développement par Homo sapiens d'armes projectiles à longue portée, qui ont permis donc cette capacité à tuer à distance. Ça, c'est vraiment spécifique à Homo sapiens. Et donc, il y a des travaux qui essayent de comprendre à partir de quand. Et selon des études récentes, les javelots et puis plus tard les arcs et les flèches auraient été développés de manière expérimentale à partir de 190 000 ans et de manière, ce serait généralisé, à partir de 82 000 ans. Donc, ce que l'on voit, c'est vraiment une évolution graduelle et incrémentale. Et à partir d'un certain moment, le rôle croissant des innovations culturelles. Et donc, on reviendra plus tard sur le rôle de la culture cumulative. Si, au contraire, après, maintenant, on va voir les racines profondes des relations pacifiques intergroupes. Une première étape, entre guillemets, on l'a vu, c'est cette réduction de la violence létale chez les hominines par rapport aux ancêtres, les singes du Miocène. Une deuxième étape est l'émergence, justement, de cette culture cumulative. Je mets ici la chronologie à environ 1,8 million d'années. Je peux répondre si vous avez des questions plus tard, sachant que, bien évidemment, c'est un processus graduel et étalé dans le temps. Et cette culture cumulative se retrouve dans la lignée Homo, donc n'est pas spécifique à Homo sapiens, elle se retrouve dans le genre Homo. Alors, c'est quoi l'évolution culturelle cumulative ? Donc, pour comprendre l'évolution culturelle cumulative, il faut d'abord comprendre la culture. La culture a été définie comme des comportements typiques d'un groupe qui sont partagés par les membres d'une communauté et qui, surtout, sont transmis par apprentissage social, donc par observation, imitation et enseignement. Et il est vraiment important de se rappeler que la culture a été démontrée exister dans plein d'espèces, de primates, de cétacés et d'oiseaux, par exemple. Donc, par exemple, chez les chimpanzés, différentes communautés de chimpanzés utilisent les outils de manière différente. Il y a des cultures différentes dans l'emploi des outils. Là où la lignée humaine se distingue est par une capacité unique qui est la culture cumulative. C'est quoi ? C'est un processus par lequel des traits culturels sont affinés au fil de générations successives, aboutissant à des produits culturels qui n'auraient pas pu être inventés par un individu unique. Donc pensez, les hominines ont commencé à développer des outils en pierre, et nous sommes arrivés à des portables. Ça, c'est le résultat d'une évolution culturelle technologique cumulative, d'une intelligence collective qui a abouti sur des millions d'années de manière cumulative. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas capable moi-même de produire un téléphone portable. Donc ça, c'est l'idée de la culture cumulative chez Homo. Un point important est que la culture cumulative aurait coévolué avec le langage. Donc la faculté du langage humain aurait évolué, selon des auteurs comme Tecumseh Fitch, Kevin Lala et d'autres, comme un moyen de transmission fidèle de compétences culturelles. C'est-à-dire que par rapport à d'autres formes de communication chez les animaux non humains, la faculté du langage humain aurait permis le transfert précis et exact de compétences apprises socialement, donc par exemple l'emploi des outils. Donc l'idée ici est que le langage aurait contribué à une plus grande efficacité et à une plus grande portée de l'enseignement culturel dans la transmission de compétences. Et donc, la culture cumulative via le langage a amplifié à la fois la capacité pour les conflits intergroupes et pour les relations pacifiques entre groupes. Et c'est vraiment cette culture cumulative via le langage qui permet cette coévolution entre la guerre et la paix de manière incrémentale et dans le temps. Alors, il y a eu un impact de la culture cumulative à la fois sur le conflit intergroupe et sur la coopération pacifique. Le langage et la transmission culturelle ont permis d'affiner les compétences utilisées dans les agressions en coalition. Également, le langage permet une meilleure coordination pendant cette agression en coalition et le langage permet également une planification dans le futur. Et donc, il a permis d'affiner cette agression en coalition. Mais en même temps, la culture cumulative via le langage a affiné les coopérations pacifiques intergroupes. C'est-à-dire que des pratiques culturelles reposant sur le langage ont joué un rôle central dans le développement de relations pacifiques. Donc pensez à, on l'a vu avant, les pratiques de négociation et de résolution du conflit via le langage, les mariages intergroupes. Les mariages intergroupes sont des pratiques culturelles qui ont élargi les liens de parenté entre groupes, alors que le langage a permis de communiquer et coopérer sur de plus longues distances. Donc voilà, essentiellement, la culture cumulative chez Homo a, via le langage, a permis de considérablement élargir la portée de la coopération pacifique intergroupe. L'étape suivante est spécifique à Homo sapiens et elle date d'il y a 300 000 ans environ. Qu'est-ce que ça veut dire autodomestication ? Alors, l'autodomestication est un terme un peu problématique parce qu'il a été assez controversé, mais sa définition est claire et précise. C'est un processus de sélection naturelle contre l'agression réactive sans intervention humaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les chercheurs font une distinction entre agression réactive et agression proactive. L'agression réactive est chaude, impulsive, spontanée. Elle est déclenchée par un stimulus extérieur. Donc j'entre dans un bar, je vois quelqu'un qui ne me plaît pas et je l'agresse. L'agression proactive est au contraire froide, planifiée, et il n'y a pas de déclencheur immédiat. Donc par exemple, nous nous asseyons, nous discutons et nous planifions demain d'attaquer Sciences Po, par exemple. Ça, c'est de l'agression proactive. L'autodomestication aurait engendré donc une réduction de l'agression réactive chez Homo sapiens, mais pas chez les autres espèces humaines. Et cela se serait accompagné d'une augmentation de la docilité qu'on retrouve dans toutes les espèces domestiquées, de la tolérance sociale et de la coopération pacifique intergroupe. Donc, brièvement, mais la sélection contre la violence réactive aurait engendré ce qu'on appelle le syndrome de domestication, c'est-à-dire l'ensemble des changements morphologiques, comportementaux, cognitifs et génétiques que l'on retrouve dans les espèces domestiquées par rapport aux ancêtres non domestiqués. Pensez aux chiens et aux loups. Et donc on a pu identifier toute une série de traits, les traits juvéniles, donc pensez un chien ressemblerait à un loup jeune, ou une capacité crânienne réduite, une réduction de la taille des dents et une docilité que l'on retrouve dans toutes les espèces domestiquées. Quels seraient les éléments de preuve qui permettraient d'étayer cette hypothèse d'une autodomestication d'Homo sapiens ? Alors tout d'abord, il y a toute une série de preuves anatomiques. On voit une gracilisation faciale. Et ici, les travaux de Jean-Jacques Hublin ont été très importants pour montrer, essentiellement une mâchoire inférieure qui devient plus fine. D'autres travaux ont montré une réduction de 40% des arcades sourcilières, vous le voyez ici dans la photo. Et d'autres travaux encore ont montré une réduction du rapport entre largeur et longueur du visage qui est corrélée à une moindre agressivité. On voit également dans le temps, chez Homo sapiens, une globularisation crânienne, et là encore une fois, les travaux de Jean-Jacques ont été absolument fondamentaux. On voit une transition vers une forme crânienne assez élongée en rouge chez les Néandertals à une forme crânienne globulaire chez Homo sapiens. Et on a pu montrer que la globularisation crânienne s'est accompagnée d'une expansion de la taille de certaines régions du cervelet, et que le cervelet a des projections directes vers les circuits de récompense qui jouent un rôle très important dans les relations sociales. Et enfin, on voit également une réduction du volume crânien d'environ 5%, selon certains dans les derniers 50 000 ans, selon d'autres dans les derniers 10 000 ans. Il y a également des éléments de preuve génétiques. Donc certains travaux ont identifié 41 gènes sélectionnés positivement chez Homo sapiens et des espèces domestiques, mais pas chez les Néandertaliens et les Denisoviens. D'autres travaux ont essayé d'étayer l'hypothèse de la crête neurale, selon laquelle les traits liés à la domestication et l'autodomestication découleraient de modifications dans le développement et la migration des cellules de la crête neurale. Et troisièmement, il y a des travaux qui ont montré ou essayé de montrer que les modifications des récepteurs du glutamate sont impliqués dans l'atténuation de la réponse au stress et dans la réduction de l'agressivité, de l'agression réactive. Et enfin, toute une série de travaux qui font des comparaisons entre espèces domestiquées qui ont pu montrer que chez Homo sapiens et d'autres espèces domestiquées, si je puis dire, il y a une communication coopérative accrue où c'est essentiellement un acte communicatif où l'émetteur fournit une information utile et bénéfique au récepteur, une plus grande tolérance sociale et une coopération élargie. Donc, il y a une convergence de preuves anatomiques, génétiques et comportementales qui montrerait bien qu'il y a eu une réduction de la violence réactive chez Homo sapiens qui aurait engendré une augmentation de la tolérance sociale et de la prosocialité. Vous allez me demander pourquoi ? Et essentiellement, ma réponse est, il y a 5 hypothèses que j'ai pu répertorier dans la littérature, et essentiellement, c'est encore un axe de recherche en cours. Donc on a des éléments de preuve qui indiquent assez fortement une réduction de la violence réactive, mais sur le pourquoi, quelle serait l'expression sélective, c'est un débat en cours. Alors là, je me rapproche de la conclusion. La dernière étape, c'est vraiment la conséquence de l'entrelacement, c'est-à-dire que la culture cumulative et l'autodomestication se sont mutuellement renforcées dans le temps. Elles ont entraîné une expansion majeure des coopérations pacifiques intergroupes, et cela se voit dans les archives archéologiques, précisément par l'émergence et l'élargissement de ces réseaux d'échanges à longue distance dont nous discutions avant. Donc il y a des traces même dans les archives archéologiques. Donc voilà, ce que vous voyez, c'est une évolution graduelle et incrémentale dans le temps, à la fois du conflit intergroupe et de la coopération pacifique intergroupe, avec la culture cumulative via le langage qui permet vraiment de faire cette jonction et qui facilite cette coévolution de ces deux formes de relations intergroupes. Alors je conclue en soulignant que je n'ai pas traité de deux aspects qui sont très importants dans le livre, mais je n'ai pas eu le temps ici, c'est le rôle du climat et des facteurs environnementaux, qui bien évidemment joue un rôle majeur dans l'évolution humaine. Et toute la question, il y a tout un chapitre dans le livre sur l'évolution du proto-langage et ensuite du langage. Mais je peux répondre à toute question si vous êtes intéressé. Donc pour conclure, contrairement à l'opposition binaire entre Hobbesiens et Rousseauistes, la guerre et la paix ont toutes les deux des racines très profondes. Et elles ont coévolué de manière incrémentale sur des millions d'années. La guerre et la paix sont le résultat d'une trajectoire coévolutionnaire, d'aptitudes héritées, donc des traits ancestraux, et de traits propres à notre lignée, des traits dérivés. Et c'est vraiment l'entrelacement de ces processus biologiques et culturels, ce qu'on appelle des processus bioculturels, qui a produit la dualité qui caractérise notre espèce. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.